Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Anne-Sophie Alsif, bonjour.
Bonjour.
Chef économiste du cabinet d'audit des BDO France. Nicolas Bouzou, bonjour.
Bonjour.
Fondateur du cabinet d'analyse économique et de conseil Asterès. Vous avez publié Pour un libéralisme populaire aux éditions de l'Observatoire. Et Augustin Landier, bonjour.
Bonjour.
Professeur à HEC, co-auteur du prix de nos valeurs quand nos idéaux se heurtent à nos désirs matériels chez Flammarion. Vous avez eu le prix de la librairie de l'écho, c'est
ouais,
ça
hein? C'est vrai.
Librairie de l'écho d'Emmanuel Le Chip qui tous les ans remet un prix à l'un des livres qui a été décortiqué pendant l'année. Donc je dis qu'on n'est pas à l'euro près, Anne-Sophie, mais on est à 155 milliards d'euros près, le montant du déficit public. Vous mettez 500 milliards de dépenses, 350 milliards de recettes, que quand on va emprunter 270 milliards d'euros l'année prochaine, un record, on n'est pas vraiment à l'euro près, et qu'on se permet d'embaucher 11 000 fonctionnaires, on n'est pas vraiment à l'euro près. Vous avez la même lecture que moi ou est-ce que vous avez un peu d'indulgence?
J'ai plus d'indulgence.
Ah, j'étais sûr. Allez-y.
Non, je pense que c'est un budget qui est assez en ligne avec ce qui était annoncé, hein, donc il n'y a pas vraiment de grosses surprises. Là, ce qui est assez intéressant, c'est vraiment le focus sur quelles aides et pourquoi. L'idée, je pense que c'est vraiment le mot le plus important d'éviter la récession, bien sûr en France, mais également en Europe, en se disant que si on avait une récession, on allait vraiment tomber dans une spirale où là, on pourrait même plus parler de budget en déficit. Ce serait vraiment la catastrophe. Donc là, l'idée, c'est de se dire, bon, on va avoir des mois difficiles, donc il faut vraiment essayer de financer le pouvoir d'achat des ménages. Donc on l'a vu avec les aides sur l'énergie qui vont continuer avec le coût quand même assez colossal que ça a. Et puis, à moyen long terme, se dire, on garde un déficit en effet autour de 5% et on essaiera de baisser progressivement parce qu'on ne sera pas en récession. Si on a 1% de croissance, on est à peu près à ce niveau de prévision, l'OCDE est à 0,6, donc on n'est pas en récession comme par exemple en Allemagne ou au Royaume-Uni. Et bien, de fait, avec cette petite croissance encore positive, on arrivera à ne pas rentrer dans le rouge et à avoir une trajectoire de désendettement plus progressive sans casser la croissance qui nous reste. Donc je pense que c'est vraiment l'arbitrage croissance déficit public qui a été fait. Même si les taux augmentent, on voit que les conditions de financement sont encore assez bonnes. Donc de fait, je pense que le gouvernement aussi en profite en disant l'année prochaine, on aura encore d'autres hausses de taux, plus la crise énergétique, plus le problème de récession en Allemagne. Il faut peut-être maintenant essayer de faire l'effort et de garder un peu, on va dire, de largesse budgétaire parce que l'année prochaine, on pourrait vraiment avoir un risque de récession plus important.
Alors cette analyse s'entend très très bien. Objectivement, elle s'argumente. L'idée de dire qu'il vaut mieux dépenser maintenant pour éviter d'aller totalement en dessous du niveau de la mer, avec certainement la grande difficulté pour remettre la tête hors de l'eau par la suite. C'est un peu ce qu'on a admis après le quoi qu'il en coûte Covid. On avait sauvé les entreprises, sauvé le capital physique, sauvé le capital humain. Et peut-être que la facture de la destruction du capital physique et du capital humain eût été nettement supérieure.
Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à le modéliser maintenant.
Donc c'est vrai
on a un fort déficit.
Et puis, si on évite, ou si on freine le risque de récession, si on freine l'inflation, on donne un peu de marge de manœuvre à la BCE dans sa politique de durcissement. Objectivement, les arguments s'entendent. Donc d'accord, vous êtes plus good cop que bad cop. J'ai été...
vous en dites.
Comment est-ce que vous voyez les choses? Dans quel camp êtes-vous, Nicolas Bouzou?
Moi,
quand on me dit l'euro prêt à la fin du quoi qu'il en coûte, je dis que ça n'est pas vrai. Mais j'entends les arguments d'Anne-Sophie, ils tiennent la route, bien sûr.
Alors, je vais vous dire, déjà, je pense que ce budget, il est très intéressant. C'est le premier budget d'une nouvelle ère, en fait. Parce que c'est le budget dans lequel on voit un certain nombre d'augmentations, qui sont des augmentations légitimes et qui sont amenées à durer. Augmentation du budget de la justice, il faut plus de magistrats. L'éducation nationale, la revalorisation des salaires des enseignants,
la défense.
Plus de policiers. Alors la défense, on va aller vers les 2% du PIB.
44 milliards.
Oui, mais on n'y est pas encore, si vous voulez. Donc on est sur une progression qui va continuer. Tout ce qui est lié à la transition énergétique, bon, tout ça, ça ne va pas bouger. Ça,
c'est l'avenir, c'est la dépense, vous me dites.
Alors,
l'avenir,
c'est
vrai, en tout cas,
dans le domaine régalien, dans le domaine de l'éducation, etc., oui, bien sûr, on va dépenser plus ces prochaines années parce qu'on n'a pas suffisamment dépensé ces dernières années. Parce qu'on avait dépensé assez peu, en fait, dans les fonctions régaliennes. Parce qu'il y a une très forte demande sociale pour ça. Donc ça va augmenter.
Précise juste, vous avez totalement raison, la dépense régalienne d'État n'est pas une dépense en France qui est délirante par rapport aux autres pays.
En termes de part, elle avait baissé.
Voilà, les délires de dépenses publiques ne sont pas là.
Alors justement, donc la question maintenant, c'est ces prochaines années, comment on s'y prend si on veut continuer de réduire un peu le déficit? Donc là, il est prévu pour être un peu réduit, mais on n'en est pas sûr, mais on imagine bien qu'il faudra sans doute aller plus loin. Et alors c'est là où cette question de l'interprétation de à l'euro près devient intéressante. C'est-à-dire, est-ce que ce à l'euro près, c'est une espèce de gestion financière extrêmement stricte, où on essaie, avec des tableurs Excel qui sont très utiles par ailleurs, mais où on essaie de tout maintenir, voire de tout baisser, etc. Et ça, on sait que ça marche pas bien. Où est-ce que on se dit, et ça, c'est un effort qu'on n'a jamais fait en France, alors on a fait un peu de réflexion, mais on n'a jamais eu de traduction politique, on se dit, dans le fonctionnement de l'État, et même des pouvoirs publics en règle générale, l'articulation avec les collectivités locales par exemple, il y a des choses à changer, il y a des choses à imaginer, parce que je vous prends un exemple.
La réponse est oui, seulement on le voit pas, voilà, parce qu'il nous est présenté.
Je vous prends un exemple concret en 45 secondes dont on parle pas. Les collectivités locales, les municipalités en ce moment, elles ont des augmentations de coûts super importantes, parce que les travaux publics, c'est de plus en plus cher, parce que le coût des cantines scolaires, ça explose, et je parle même pas de l'énergie. Donc augmentation de coûts super important. Elles peuvent pas réduire, c'est très difficile pour elles de réduire leurs dépenses, en fait. Parce que, et en plus, elles ont l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires qui s'applique aussi à la fonction publique territoriale. Donc, très difficile de réduire leurs dépenses. Elles ont pas de marge de manœuvre sur, leur masse salariale. Elles ont de plus en plus de missions.
Pas de marge de manœuvre sur leur masse salariale. Au cas par cas, il y en a sans doute certaines qui en ont un peu.
Vous pouvez voir sur les départs en retraite.
Bah oui,
c'est pas une entreprise. Non,
et puis on leur a retiré la plupart des outils fiscaux.
Et la suppression de la taxe d'habitation, c'est très bien, mais du coup, il y a plus que le foncier, en fait. Il y a plus que la taxe foncière comme outil
fiscal. Comme gros
levier
fiscal, oui.
Ça monte un peu, parce que les bases montent un peu, mais bon, bref. Non, ce que je veux dire, c'est que, en fait, si on n'a pas cette réflexion sur comment on redonne de la flexibilité à l'intérieur de l'État pour mieux gérer de façon décentralisée, le à l'euro près, ça va être une espèce d'horreur. Ça va être extrêmement, extrêmement difficile, parce que ça va être une vision très centralisée, très technocratique de la maîtrise des dépenses. Donc, vous voyez, la façon dont, je ne sais pas si je suis clair, hein, mais la façon dont on peut imaginer les choses, c'est fonction régalienne, ça va continuer d'augmenter, et il faut que ça augmente, parce qu'objectivement, la justice, vous regardez le budget de la justice, il est bas en France. Donc, c'est moi qui vous dis ça, il faut que ça monte. Hein. Mais de l'autre, il va quand même falloir être un peu imaginatif et un peu sérieux pour faire en sorte qu'on gère mieux et qu'on arrive quand même à réduire le déficit. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de péril en la demeure. Hein. Il n'y a pas, quand on regarde le déficit,
2,7 à 10 ans,
la charge de la dette, il n'y a pas de péril en la demeure. Mais je pense que quand même notre rôle, c'est d'essayer de se dire, essayons de nous projeter quand même à moyen long terme et d'éviter les risques.
Mais dans ce que vous avez dit, il va falloir... C'est-à-dire qu'on ne l'ouvre jamais, cette réflexion. Elle n'est pas renseignée. J'ai bien aimé la façon de Nathalie Janson hier de dire « Mais il est où le projet ?» C'est bien, on nous montre des chiffres, des tableurs Excel, mais il n'y a pas de projet.
Ouais.
Un projet qui, effectivement, considère qu'il y a des priorités régaliennes et qu'il y a des endroits où il y a vraiment des efforts à produire. Quel est le type de retraite que l'on veut ? Est-ce que le système assurantiel de 1945 peut encore vivre aujourd'hui alors qu'il a normalement besoin de 3 à 4% de croissance ? C'est quoi le projet ? La réforme des retraites, on est en train d'en faire un pauvre truc paramétrique sans projet.
Allez-y, Anne-Sophie. C'est sévère quand même, parce que ce soit dans la campagne ou même après, il y avait vraiment quand même l'idée d'avoir un focus sur l'éducation. Il y a quand même eu France 2030 qui a été présentée avec quand même des secteurs stratégiques et essayer d'avoir un peu d'investissement mais à long terme. Je vois le sourire en disant c'est bullshit, etc.
J'ai pas dit bullshit.
Mais c'est vrai que s'il y avait rien, on dirait il y a rien. Quelque chose est présenté, c'est bullshit. Bon, il faut quand même nuancer. Et sur l'éducation, il y a quand même des priorités qui sont assez affichées, notamment sur la petite enfance qui ont été faites. Donc on ne peut pas dire non plus qu'il n'y a rien, pas de projet. Et s'il y avait trop de projets, on aurait aussi eu la critique qu'ils sont trop macro, etc., alors que les Français souffrent de l'énergie. Donc là aussi, il faut être plus nuancé.
Il faut que Dose arrête d'être langue de vipère. Alors. Dans notre petit échange sympathique et gazouillant du matin sur le budget 2023, vous vous situez où?
Pas mal a été dit. D'abord, je pense que, notamment parce qu'on est économiste, il faut bien distinguer deux registres. Il y a le registre qui est dans un manuel d'économie, quel serait le timing optimal de quand est-ce qu'on freine, quand est-ce qu'on accélère. Et puis ensuite, il y a un commentaire, disons, de politique économique sur, étant donné les contraintes politiques du moment, qu'est-ce qu'on pense ? Est-ce que c'est bien joué, en quelque sorte, dans ce jeu de contraintes politiques ? Alors là-dessus... Moi, je trouve le truc, le budget n'est pas très surprenant. La seule chose un peu lunaire, je trouve, c'est cette obsession du bouclier tarifaire poussé à l'extrême, qui est un peu étrange, mais qui est peut-être le point de départ d'une négociation, parce qu'on sait que la droite est très arc-boutée sur ne pas commencer à rentrer dans cette logique de cibler vers les pauvres et faire payer les riches pour faire vite, ou avoir des seuils au-delà desquels on ne compense pas. Donc c'est peut-être un point de départ de négociation, et c'est comme ça que j'entends le « à l'euro près », c'est de dire, on donne une enveloppe, après si vous voulez renier sur quelque chose pour distribuer ailleurs, la négo est engagée. Je pense que c'est le bouclier tarifaire qui est un petit peu l'endroit où on peut renier de manière rationnelle.
J'ai une autre idée. J'ai une autre idée. Si vous voulez rogner, vous dites que finalement, on va pas réindexer le barème de l'impôt sur le revenu. J'ai été frappé du chiffre ça de aussi, 6 milliards 200 millions d'euros de non-hausse.
Absolument. Donc ça aussi, on voit bien que ça anticipe une sorte de négociation. Après, la négociation, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est quadripartite. Parce qu'il y a la négociation avec les parlementaires, mais il y a celle avec les marchés, il y a celle avec l'Europe, et puis il y a celle un peu implicite avec la BCE, qui se voit un peu comme l'arbitre, finalement, de tout ça. Et donc, c'est une négociation subtile, quand même. Quand on engage une négociation, on lâche pas tout de suite ce qu'on pense être le point d'arrivée. Donc, je pense qu'il faut lire ce budget un peu comme ça. Et voilà, au bout du compte, c'est un budget centriste. Encore une fois, le seul truc qui est un peu étrange et qui fait un peu tâche, disons, par rapport aux engagements du reste des pays européens, c'est ce bouclier tarifaire un peu extrémiste, mais qui demande sans doute à être négocié. Après, voilà, comme Nicolas, je pense que la situation est pas... Il n'y a pas une sorte d'urgence qui fait qu'il faut tout de suite être en mode pompier et envoyer des signaux au marché. De fait, les signaux de marché ne sont pas là, hein, soit dit en passant. Vous regardez sur vos Bloomberg, c'est pas de la France dont on parle aujourd'hui, c'est de l'Italie et de l'Angleterre. Mais il faut regarder très près ce qui se passe dans ces pays-là, d'ailleurs, pour bien comprendre la dynamique et la logique des marchés. Mais... voilà, il n'y a pas urgence et je pense que de toute façon les réformes un peu drastiques ne se feront que sous des contraintes externes fortement affichées, qu'elles soient européennes ou que ce soit celles des marchés.
Alors il n'y a pas urgence, vous me direz un mot quand on parlera des retraites.
Juste par rapport à ça, je ne pense pas qu'on puisse parler d'un bouclier tarifaire extrémiste. Je pense que par rapport à ce qu'on a dit auparavant, justement l'idée c'est de conserver un minimum cette croissance et quand vous regardez le taux d'épargne qui reste quand même à un niveau assez élevé, hein, on n'est pas revenu au niveau d'avant crise, par rapport à ça, l'idée c'est de ne pas casser les anticipations. Et donc de dire en effet, on protège par rapport à ça, parce que c'est ça qui est anxiogène et qui a vraiment un impact sur la confiance entreprise, bien sûr, mais surtout ménage, ça permet de ne pas rester en récession. Donc oui, je ne dirais pas qu'il est extrémiste.
Non, mais l'État qu'il est nécessaire. En psychiatre des anticipations, franchement, il y a une contrainte réelle qui est les prix de l'énergie sont élevés. Il y a un moment où
une fois qu'on a dit ça,
qui est
d'aider
les gens à s'y adapter. Mais il va falloir s'y adapter.
Oui, mais les gens ne choisissent pas de s'y adapter ou pas, ils sont contraints. Donc ceux qui n'ont pas de revenus, ils sont déjà contraints depuis longtemps.
Non, ça, je suis pas d'accord.
Ensuite, les autres.
Je pense que les efforts de réduction des dépenses déjà des ménages pourraient être plus importants. Et donc, il n'y a rien à faire.
Ce pas en fonction du niveau de revenus. Dans les revenus les plus bas, il y a déjà beaucoup d'efforts qui sont faits.
Ça, c'est donc, la fameuse question du signal prix. Je sais pas, Nicolas Bouzou, si vous avez. On aurait dû laisser davantage de signal prix.
En fait,
moi, je considère qu'on pouvait pas laisser tout le signal prix quand la facture passe de 50 à 250.
Tout le monde est d'accord là-dessus.
Et je pense qu'on parlera peut-être des entreprises tout à l'heure, mais c'est un peu la même logique. C'est-à-dire que moi, je trouve quand même que le bouclier tarifaire version 2023, il est pas mal parce qu'il y a quand même des augmentations de prix qui sont assez fortes sur l'énergie, 15% sur l'électricité. C'est quand même
pour un ménage moyen, c'est pas rien.
Donc, j'étais assez d'accord avec Augustin sur la version 2022, qui était vraiment là une version quand même jusqu'au boutiste, hein, très honnêtement, du bouclier tarifaire. Je trouve que là, le gouvernement, c'est quand même plutôt bien. C'était vraiment très compliqué parce que je pense que peut-être on peut être d'accord tous les trois pour dire qu'il faut laisser le signal prix. En même temps, il faut caper quand même à un moment les prix parce que sinon on casse la croissance et puis
Pour les acteurs vulnérables.
Tout un tas de problèmes sociaux. Là, je pense que le débat. Pardon, j'anticipe peut-être Nicolas. Je pense que le débat difficile, il arrive sur les entreprises. Je pense que sur les ménages, on a trouvé quelque chose de pas mal. Pour 2023.
Franchement, il y a très peu de perdants. J'ai regardé les perdants du budget.
Pour les entreprises, c'est un peu plus compliqué. Il y a des dispositifs d'aide aujourd'hui, clairement. Ils sont un peu compliqués, honnêtement, parce qu'il faut mesurer la part des achats d'énergie, rapporter ça au chiffre d'affaires, chercher ça auprès de Bercy, etc. Donc d'ailleurs, c'est pas. Bruno Le Maire le dit lui-même, c'est un mécanisme qui a été pas très utilisé en réalité par les entreprises.
Trop d'effets de seuil en fait. Voilà. Trop de complexité et de seuil.
Peut-être que là, il y a aussi quelque chose à imaginer du côté d'un bouclier tarifaire, mais alors là, c'est pas 15%. Là, il s'agit d'éviter, en fait, des entreprises qui ont mal négocié les contrats, en fait. Il y en a moi, j'en vois, nous, dans nos clients, on voit des entreprises qui font face à des augmentations l'année prochaine de 3000-4000% des prix de l'énergie. Donc,
votre contrat à terme.
Je suis très attaché au signal prix, mais j'ai pas envie non plus que tout le monde fasse faillite parce que je sais aussi que du point de vue macroéconomique, c'est idiot, si vous voulez. Donc, je pense quand même qu'il faut qu'on arrive à mettre en place un bouclier tarifaire. J'ai pas réfléchi à l'ordre de grandeur précis. C'est pas 15%, là. C'est peut-être 1000%, vous voyez. C'est quelque chose de cet ordre-là. Mais c'est quand même pour éviter, de toute façon, tous les pays vont, à mon avis, beaucoup de pays vont y venir. Hein.
Par rapport à ça, c'est pas d'avoir des faillites. Le problème, c'est d'avoir des arrêts de production. C'est ce qui se passe exactement en Allemagne. Et c'est pour ça qu'on a des anticipations si négatives et qu'on a des problèmes de récession. C'est-à-dire que des pans entrés de l'industrie se disent, vu les projections d'augmentation, j'arrête de produire. Ouais. Donc là, on n'est pas du tout sur des faillites ou autre chose. On est vraiment sur de l'arrêt. Et c'est ça que le gouvernement français, je pense, redoute. Alors nous, on n'a pas la même spécialisation dans l'industrie, mais en tout cas, sur certains secteurs. Alors là où c'est positif, c'est quand même là où les secteurs sont très impactés. C'est souvent quand même sur des secteurs d'industrie en forte valeur ajoutée, donc quand même quelques stabilités en termes de marge assez solides. Mais c'est vrai que si ça continue l'année prochaine, là on pourrait vraiment avoir des choix au lieu de dire voilà, je garde mon entreprise, mais j'arrête de produire. Et là on peut vraiment rentrer dans une spirale récessionniste.
Augustin, vous pensez qu'il fallait laisser plus de signal prix, peut-être pas tout le signal prix,
D'abord, il faut regarder ce que font les autres et se synchroniser, parce que c'est quand même très absurde d'avoir d'un côté, et il y a un peu le même problème aux États-Unis, d'un côté la Banque centrale qui freine à fond en disant les gars, il y a un problème à la fois d'excès de demande et de supply qui n'est pas là, parce que c'est quand même, on peut rien y faire, l'énergie elle est raréfiée et donc les prix sont élevés, donc il y a rien à faire, faut bien arriver à partager les choses, on peut pas continuer à la consommer comme avant. C'est voilà, le prix est plus élevé parce que c'est une ressource qui est devenue rare. C'est pas une aberration de marché, c'est pas une bulle.
Non, mais je dis pas que c'est une aberration de marché. Mais...
Donc, du coup, vous avez d'un côté les banques centrales qui freinent et de l'autre les gouvernements qui disent oui, mais chez nous, on va essayer de pas arrêter les usines. Bah, peut-être qu'il y a des usines qui vont devoir s'arrêter en Europe, ça c'est déjà le cas. Enfin, donc, il faut arriver à rationaliser un petit peu ce processus et pas être dans une espèce de pensée magique qui en fait voit ce prix de l'énergie comme une espèce de choc contre lequel on peut assurer les gens. Il y a une rareté de l'énergie et ça veut dire qu'il faut arriver à la partager efficacement.
Il faut apprendre à avoir mal de nouveau, quoi. Ça, c'est choses qui peuvent nous arriver.
Oui, et puis pas être sur un registre trop d'aider les gens à ne pas avoir peur. Bah, il faut quand même voir la réalité en face.
Je pense que là-dessus, c'est bon, finir, quand on voit justement par décile de revenus qui ont été les plus touchés, on voit qu'il y a quand même eu la crise Covid, il y a eu la crise chômage parce qu'on dit plein emploi, mais il y a des catégories qui en sont encore exclues. Et les personnes qui sont encore le plus touchées par la crise énergétique, c'est exactement le même nombre de déciles.
Et tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut protéger les plus vulnérables. Je ne connais pas une seule formation politique qui ne.
Mais c'est pas
qu'il faut un
bien sûr les vulnérables, mais sur l'énergie, c'est comme l'alimentation. Il y a un côté très anxiogène, qui a un côté très psychologique sur les anticipations qu'on a tendance à sous-pondérer dans les modèles, quel que soit offre ou demande. Donc là, je pense qu'en effet, l'idée de dire il faut encore essayer de protéger un maximum, même en le réduisant, parce que sinon on a vraiment de très 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 fortes baisses de pouvoir d'achat concrètement, ça peut vraiment être très récessionniste à moyen long terme.
Il y a Marie m'écrit, ah, pour une fois, l'émission n'est pas anxiogène. Parce qu'effectivement, vous avez quand même apporté des bémols plutôt séduisants à ma lecture un peu chouac du budget.
Mais tu devrais retenir, pour une fois, ce n'est pas anxiogène. Donc
voilà. Ah non, mais je ne crois pas être anxiogène systématiquement. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre Bon, le budget ménage la chèvre et le chou, l'idée.
Oui, mais c'est pas. Enfin, alors, Nicolas Bouzou. L'expression est de. Oui, elle est singée chez moi, elle n'est pas de moi, mais je la trouve très bonne. Mais c'est peut-être. Mais c'est ce qu'il faut, en fait. Enfin, il ne faut pas forcément y voir une critique, parce qu'on est quand même dans une situation. Regardez, la croissance l'année prochaine, c'est très difficile de savoir où est-ce qu'on sera. Les grandes institutions internationales vont plutôt vers des récessions dans les pays développés. Nous, en France, on est plutôt à 1%. Il est possible qu'on soit à 1%, c'est pas du tout. On va pas forcément être en récession.
Mais si la guerre s'arrête en Ukraine et que zéro Covid s'arrête, on sera
même
à 3. Hein.
Ouais. Je trouve qu'il y a des facteurs quand même qui sont un peu nouveaux, qu'on a aussi du mal à modéliser. Alors le terme est à la mode, pardonnez-moi, mais la résilience des entreprises, des chaînes de valeur. Oh, regardez, un truc qui est quand même incroyable, vous regardez les soldes d'opinion sur les chaînes de valeur, sur les délais d'approvisionnement, en fait, c'est en amélioration, mais spectaculaire. Depuis quelques mois. Mais vraiment spectaculaire. Et ça, moi, mon interprétation, c'est qu'en fait, il y a eu un premier choc très fort au moment du Covid qui a amené, mais là aussi, je le vois d'ailleurs concrètement, qui a amené beaucoup d'entreprises à diversifier leur chaîne de valeur, à se réorganiser, et elles en tirent aujourd'hui les bénéfices. Et donc, vous voyez, les chocs ont peut-être moins d'impact que ça en aurait eu il y a deux ou trois ans. Donc ça, c'est assez difficile à modéliser. Donc qu'on ait un budget qui soit pas un budget qui lâche complètement les vannes parce qu'on serait certain d'entrer en récession, ou qui panique pas en réduisant très fortement le déficit public parce qu'il considérait qu'il y a des problématiques financières qui sont urgentes, finalement, ça me semble assez cohérent.
Entendu.